Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye. Donc maintenant, je vais vous introduire Guillaume, que vous connaissez peut-être déjà, qui travaille en section musique et cinéma, qui vous parle souvent de vinyle et de plein d'autres choses. Et là, je crois qu'il va vous parler d'un livre. Et donc, pour faire le lien, je vais vous parler de ce livre que je n'ai pas lu par le biais de la mini-série qui est passée sur Netflix au début du confinement qui s'appelle Un orthodoxe et qui est vraiment extraordinaire. Extraordinaire par le jeu de l'actrice qui est absolument fabuleuse. Et voilà, donc forcément, avec un titre pareil, vous vous doutez peut-être que ça parle un peu de religion et de tout ça. Et donc, Guillaume va se faire un plaisir de vous expliquer.
Je vais vous parler du livre. Je vais tout vous expliquer.
Oui,
n'étant pas aussi sectaire qu'on pourrait le croire, pour une fois, j'ai délaissé la musique pour la littérature et pour les histoires vraies, parce qu'il s'agit d'une biographie, en quelque sorte. J'ai découvert cette histoire par le biais de la série télévisée également et elle m'a donné l'envie d'en savoir plus et donc de lire le livre. Donc Deborah Feldman, qui est l'autrice de cet ouvrage, elle décrit sa jeunesse au sein d'une communauté juive orthodoxe, ultra-orthodoxe, mais hassidique, communauté Satmar, donc qui est dans le quartier de Brooklyn et plus exactement dans Williamsburg en fait, qui est le petit pâté voilà où tous ils habitent.
Nous sommes à New York.
Voilà, à New York, ouais. Et elle décrit d'une façon étonnante cette communauté, puisqu'elle ne partage absolument pas sa façon extrêmement particulière de vivre. Et très jeune, elle a développé une idée fixe, c'est de s'en extraire. Malgré tout, elle n'a pas pu le faire aussi vite qu'elle aurait souhaité, ce qui fait que, et quelque part, c'est pas un roman d'initiation, mais en tout cas une histoire d'initiation. Elle a vécu et elle nous décrit toutes les étapes par lesquelles la vie d'une femme passe dans cette communauté. On va dire la perte de l'innocence, ensuite la préparation au mariage qui est arrangé avec un homme qu'elle ne connaît pour ainsi dire pas, et ensuite une vie matrimoniale qui est essentiellement réglée par des devoirs religieux et des prescriptions liées à son état de femme pure ou impure, c'est-à-dire liée à son cycle menstruel, et à l'idée fixe et capitale pour ses proches, c'est avoir des enfants. Et elle, elle combine plusieurs handicaps depuis qu'elle est toute petite. C'est que déjà, la religion a une grande place pour sa famille, mais elle, ce n'est pas forcément quelque chose qui lui parle. En tout cas, beaucoup moins que les livres qu'elle va chercher un peu en loose day à la bibliothèque du quartier parce qu'elle n'a pas le droit de les lire. Elle est également frappée du sceau infamant d'avoir des parents qui détonnent au sein de cette communauté, puisque son papa, d'après ce qu'elle nous en dit, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui, en tout cas, ne s'est jamais investi dans la vie de famille, donc est un peu un étranger pour elle. Et sa maman, elle est partie très, très tôt. Donc déjà, elle a quitté la communauté et en plus, elle l'a quittée pour vivre une histoire d'amour avec une autre femme. Donc elle est déjà regardée de travers à cause de tout cela. Et donc elle subit au quotidien l'oppression de ses règles de vie et puis de cette espèce d'ostracisme dont elle est frappée. Et ça contribue également à lui donner l'envie de partir. Alors c'est un livre qui est étonnant parce que on voit bien tout ce qui lui pèse, tout ce qui lui déplaît dans sa vie de tous les jours, mais en même temps, pour autant, elle ne hait pas les gens qui l'entourent. Elle parle même de bons moments. Un excellent exemple, il est fourni par les relations qu'elle a avec son mari, qui sont pas très marrantes. Il y a des choses pour lesquelles que je dévoile pas là pour ceux qui souhaiteraient lire le livre, mais qu'elle lui reproche Mais malgré tout, elle ne fait pas l'impasse sur les moments de complicité qu'ils ont pu partager. Et je trouve que donc, il y a quand même une certaine nuance dans sa façon de dépeindre tout cela. Et bon, on comprend que c'est sa vie. Même si elle a souhaité en changer radicalement, il y a quand même énormément de choses qui l'ont construite et auxquelles elle demeure attachée, même depuis son départ de la communauté. L'intérêt de la série Netflix, et c'est là où notre mascotte Framboise va intervenir pour chroniquer avec moi, est intéressante, c'est qu'elle... Alors, Deborah Feldman a elle-même participé à l'écriture de la série, et à l'aide des autres auteurs et de la réalisatrice, elles ont convenu que le livre en lui-même était très difficilement adaptable. En partie parce qu'il est vrai qu'elle s'appesantit beaucoup sur certains détails, certains faits, et que cinématographiquement, ça ne porterait pas. Donc, il y a toute une partie dans le film qui, en fait, décrit sa vie après sa fuite, sa vie qu'elle va passer à Berlin pour essayer de se reconstruire et de retrouver sa mère qui habite là-bas. Elle est totalement fictionnelle. Donc, elle a été créée, écrite, vraiment pour la version, j'allais dire cinématographique, mais oui, c'est la version télévisuelle. Et c'est intéressant de pouvoir comparer le livre d'une part et son adaptation, très libre dans un certain sens, parce que du coup, elle met en lumière de façon très allusive des choses qui sont détaillées dans le livre, et les deux types de narration se font écho. Et donc c'est enrichissant de regarder l'un après avoir lu le livre, ou vice-versa. Moi, je suis venu au livre après la série. À savoir aussi qu'il y a quand même une part visuelle pas négligeable dans le bouquin. Je pense que dans l'édition française, c'est pareil. Mais dans l'édition américaine, oui. Il y a beaucoup de photos de famille dans le livre. Et la première photo, c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça doit être la photo de mariage de ses parents. Donc on voit un petit peu l'évolution de sa vie et de sa personnalité aussi à travers les photographies. Et je trouve que c'est un éclairage qui est intéressant aussi, à sa façon.
Alors je poserai bien une question à Guillaume. Va-t-il répondre pour ne pas gâcher la lecture des lecteurs ? J'ai cru comprendre en regardant cette série, j'avais pas bien capté qu'effectivement elle n'allait pas en Allemagne, que c'était vraiment fiction, ça, enfin fictionnel.
Oui.
Mais j'avais cru comprendre qu'elle y allait avec son mari à un moment donné. Non.
Je me souviens pas. Je crois pas qu'ils aient fait un voyage à l'étranger ensemble.
Peut-être pour aller voir
et
sa mère.
Je...
Pas dans le film, mais dans le livre.
Ah non, sûrement pas avec son mari pour aller voir sa mère. Non, non.
Non.
Et
bon, il faut lire le livre, hein, y a pas à dire. Et en plus,
ah bah oui,
le
oui,
bonus,
oui.
C'est qu'on a forcément et la série à la bibliothèque de Tours. Guillaume, il me dit non.
Parce que Netflix sort quelques séries en DVD, mais c'est vraiment la portion congrue. Je ne crois pas que celle-ci soit sortie. En tout cas, à ma connaissance, on l'a pas.
Alors, je veux pas faire de la pub supplémentaire pour Netflix, mais bon, voilà, quoi, on est un peu coincé avec ça. Hein. Et en tous les cas, ce livre, ben, je pense que je vais le lire, moi, personnellement. Et donc,
J'ai moi-même vu la série et c'est vrai que j'ai pas lu le livre, pardon. J'ai moi-même vu la série et c'est vrai que j'ai pas lu le livre et ça m'a donné envie, tu vois, ta présentation, Guillaume, de voir un peu les différences justement entre la série et le livre. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a très bien fonctionné. Je sais, en tout cas, sur la plateforme Netflix, ça a eu un élan assez fort au niveau des auditeurs et des spectateurs.
De n'importe quelle génération, hein, entre...
Ah, j'imagine. Bah oui. C'est susceptible de parler à tous, hein, de toute façon. À savoir aussi que le livre, pour autant que je me souvienne, il est sorti très très peu de temps après qu'elle a quitté la communauté. Et je crois qu'elle avait été conseillée en cela. On lui avait recommandé, quand elle a eu ce projet d'écriture, parce qu'elle s'est aussi émancipée par l'écriture. Au moment où elle a pris sa décision, où elle a vraiment entamé les démarches pour quitter la communauté Satmar. Et... donc le problème qui se posait pour elle, c'était de conserver la garde de son fils, puisqu'elle avait été finalement parvenue à avoir un enfant, mais elle voulait c'est aussi, ça a été l'élément déclencheur de son matériel, de son départ. Elle voulait lui assurer un avenir libre, voilà, qu'il puisse disposer de son libre arbitre. Et donc, voilà, partir, elle, de la communauté, mais surtout l'en faire partir, lui aussi. Et de facto, ça aurait été manifestement plus simple de conserver la garde de son fils si l'histoire était largement diffusée et connue, et le livre était une excellente façon de, voilà, de faire connaître son destin, histoire de faire un peu plus de placement de produits pour Netflix. Et il y avait également à la même période, je ne sais pas s'il y est toujours, mais un film documentaire sur le même sujet qui s'appelle One of Us, je crois. C'est un titre comme ça, je crois que c'est ce titre-là, et qui détaille les destins de trois personnes qui veulent également quitter une communauté juive orthodoxe. Et il y a une jeune femme qui est à peu près dans la même... je crois que c'est une mère célibataire. Il y a un jeune homme qui est homosexuel. La troisième personne, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc ça n'est pas un cas isolé. Et alors, bon, on ne sait pas si ce livre va amener à une fuite massive à l'extérieur de Brooklyn. Mais enfin, il est certain qu'il a mis concrètement des mots sur beaucoup de choses qui devaient se murmurer au sein de la communauté et voilà, qui n'en ont jamais passé les portes.
Après, moi, je sais que sur la série, n'hésite pas à intervenir aussi, Framboise, parce que j'ai pas forcément tout en tête, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais il me semble que sur la série, on la voit juste, c'est une fin ouverte en fait. Là, sur le livre, on va peut-être un peu plus creuser son parcours une fois qu'elle est partie finalement. Parce que c'est vrai que moi, j'avais le souvenir en tout cas de la fin, d'une fin ouverte, où on la voyait assez prête à aller vers une nouvelle vie.
Hein. Oui, mais dans la série, elle est enceinte à la fin de la série en fait.
Ouais.
Entre-temps, elle rencontre un charmant jeune homme qui va faire du chant. Elle va chanter à un moment donné d'une voix magnifique et c'est super émouvant parce que là, son mari est venu pour essayer de la récupérer, en fait. Enfin, je pense que les gens à qui on s'adresse, il y en a peut-être pas mal qui ont vu cette série qui a vraiment eu beaucoup de succès, d'autant que c'est une mini-série. Mélissa ne l'a pas vue.
Dieu, est-ce possible ?
C'est une mini-série de 4 épisodes seulement et c'est ça qui est bien, quoi. Mais par contre, un bon conseil, essayez de la voir... Enfin, de l'entendre en anglais, yiddish et allemand, avec les sous-titres, comme vous voulez, mais vraiment en version originale. Là, ça a toute son importance.
Mais est-ce que c'est fréquent, comment dire, parce que l'adaptation d'un livre au cinéma, bon, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, mais là, livre-série, est-ce que c'est aussi fréquent ? Est-ce qu'il y a des choses un peu tarte à la crème dans ce genre d'adaptation, là où vous dites que la fin n'est pas la même ? Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire de ces adaptations ? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres ?
Oui, il y a un bon paquet d'œuvres littéraires qui sont adaptées en série. Alors c'est vrai qu'après, la concomitance, mais disons le délai extrêmement court entre la publication du livre, ou en tout cas sa diffusion un peu plus large, et la mise en production de la série, c'est vrai que c'est rare que ça soit si court. Bon, il y a Game of Thrones, qui est un autre excellent exemple, puisque l'auteur a écrit presque en parallèle, je crois, une partie de sa saga en livre, alors que la série était en chantier. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les fins soient les mêmes, mais bon, j'ai pas lu les livres. J'ai vu la série, mais pas lu les livres. Donc là aussi, on a une espèce d'exemple pas si courant d'influence réciproque dans le work in progress de la création qui est assez intéressant, il faut dire. Ouais. Mais oui, je pense aussi à Morse, qui est probablement un des 10 meilleurs films de tous les temps, qui est l'adaptation par son auteur même d'un livre qui s'appelle « Laisse-moi entrer », une variation moderne sur le mythe du vampire. Alors, il y a beaucoup de choses tartignoles dans le genre, mais là, c'est absolument mais formidable, d'une intelligence, d'une délicatesse. Là également, l'auteur du roman, il a spécifiquement retravaillé son texte et son histoire pour le médium cinéma et la temporalité d'un film de long métrage. Donc il y a énormément de sous-intrigues qu'on peut trouver dans le roman, qui est un assez gros pavé, qui sont mises de côté. Et en même temps, il restructure et il densifie le fil narratif principal et les rôles et les interactions des personnages principaux. Et d'ailleurs, ça en fait une des principales richesses du film. Et probablement son point fort également.
Après, je me permets de rebondir, mais dans les réadaptations aussi, d'adaptations de séries en roman, je sais qu'en section jeunesse, on avait aussi des romans qui sont apparus aussi, notamment sur la série Netflix qui s'appelle Grisha. On avait reçu aussi des ouvrages de cette série, en fait, donc c'est adapté. L'avantage et l'inconvénient, à mon sens, c'est que ça fait venir des publics qui passeraient dans un premier temps par l'application et la plateforme Netflix pour ensuite leur faire découvrir le livre derrière qui se cache. Ensuite, là, ça reste après, à mon sens, ça reste peut-être une démarche peut-être un peu trop commerciale. Ce côté, on s'inspire d'une série ou on s'inspire d'un livre. J'ai toujours été un peu ambivalente là-dessus.
Non, je crois que, enfin, tout ce qu'on risque, c'est de trouver une adaptation réussie.
Oui.
Ce qui a été le cas avec Anne of Green Gables, qui a fait Anne with Annie sur Netflix et qui est, enfin, c'est. Alors ça, pour le coup, on a le DVD des trois saisons. Et là, c'est une réussite complète. Et en plus, qui actualise des thématiques liées à la place de la femme dans la société, à la construction de la personnalité, qui sont déjà présentes dans le bouquin à l'origine, mais qui sont là, remises au goût du jour, on va dire. Et c'est très bien. Il y a beaucoup de réalisatrices engagées qui ont travaillé sur cette série, notamment Patricia Rosema. Qui a réalisé un épisode qui avait adapté Tipping the Velvet de Sarah Waters et qui a fait un très beau film, When Night is Falling. Ça fait très longtemps déjà. Mais...
Je suis complètement larguée, moi, avec tout ça. Là, j'avoue que...
Merci, Framboise. Mais tu as vu la série deux fois, donc ça compense.
J'ai vu l'orthodoxe deux fois, parce que après, pour bien saisir en anglais, tout ça. Mais les titres que tu as donnés, Guillaume, en anglais, donc, c'est les titres sont en anglais ou il y a une traduction française de ces...
Mais les titres sont en anglais.
Oui, d'accord.
Oui, oui.
OK.
Bon, eh bien, Framboise, le mot de la fin.
Eh bien, le mot de la fin, c'est nous sommes très contents d'avoir retrouvé Mélissa avec la radio et puis j'espère que vous pourrez en profiter.
Je voudrais parler de Popeye.
Et là